Maître Alexandre Gicquello, bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de me recevoir chez vous dans votre société. Merci de prendre le temps de me recevoir pour discuter un peu d'anthropologie et de philosophie. Et je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Nelson Mandela. Un jour, on posait la question à Nelson Mandela de savoir qui il était. On lui a demandé qui il était, et voilà quelle fut sa réponse. Je suis fondamentalement optimiste. Je ne saurais dire si c'est dans ma nature ou si je l'ai cultivé. Une partie de ce qui fait un optimiste, c'est de garder la tête tournée vers le soleil en mettant un pied devant l'autre. Et vous, maître Alexandre Gicquello, qui êtes-vous?
Ça serait un peu. C'est une question difficile, mais j'aime beaucoup cette définition. J'ai moi-même une nature plutôt optimiste, donc ça tombe bien. J'aime assez cette analyse, c'est-à-dire que, effectivement, si on commence à. Ce qui est très français, ne voir que les choses qui vont mal, on a du mal à mettre un pied devant l'autre. Ça, c'est sûr. On a la chance en France d'être dans un pays qui a une histoire très riche, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est riche par ses péripéties, mais le pays lui-même était très riche, ce qui nous permet de voir un avenir avec une distance que d'autres pays n'ont pas. Ce qui est très important. On s'en rend tous les jours compte dans le marché de l'art. C'est-à-dire que la France reste un grenier extraordinaire, bien rempli, qui se vide progressivement, mais à l'échelle humaine, il se vide très doucement. Et ça nous permet de voir un avenir avec résolument une touche d'optimisme.
Vous êtes optimiste, mais avant de rentrer dans une véritable réflexion, pouvez-vous simplement donner les grandes lignes de votre carrière?
De ma carrière ou du métier en général?
De votre carrière.
De ma carrière, pardon.
En quelques lignes, parce
Oui,
que je sais que
bien
vous
sûr, bien
avez une
sûr, bien
grande.
sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métier de commissaire-priseur a subi une révolution très profonde et très intense en 2000, avec une loi qui est passée devant le Parlement français, qui supprimait le monopole des ventes publiques. Les commissaires-priseurs, avant en 2000, avaient le monopole des ventes publiques. Ce qui interdisait par nature les maisons étrangères de pouvoir accéder au marché français. Quand on dit maison étrangère à l'époque, c'est principalement Christie's et Sotheby's, qui sont les deux mastodontes multinationales, omnipotentes, tout ce que vous voulez. À une dimension internationale avec des capitaux considérables. Et jusqu'aux années 2002, en l'occurrence, puisque la loi a été votée en 2000, mais n'a été appliquée qu'en 2002, le décret n'est rentré en application qu'en 2002, nous avions le monopole. Le fait est que c'est exactement la période de mon entrée dans le métier. C'est-à-dire que moi, j'ai été nommé en mai 2002, et la réforme est rentrée en vigueur en septembre 2002. Donc j'ai connu l'ancien système en tant que apprenti, si je puis dire, c'est-à-dire stagiaire commissaire-priseur. Dans la profession de commissaire-priseur, le stage est légal, c'est-à-dire que vous devez un peu comme les notaires, vous devez pendant 2 ans faire un stage de formation qui n'est pas un stage comme on peut en voir parfois, qui sont des stages facultatifs. Là, c'est un stage légal, c'est-à-dire que vous avez un examen d'entrée. Et après une période probatoire de 2 ans avec un stage obligatoire, et à l'issue de ce stage, vous avez un rapport de votre maître de stage qui compte dans votre notation pour l'examen final de commissaire-priseur. Donc j'ai connu l'ancien système, puisque j'avais commencé à travailler en 1995. Mais j'ai été le cobaye, si je puis dire, du nouveau système. C'est-à-dire qu'il a fallu rentrer dans un monde qui est devenu concurrentiel et non plus monopolistique, ce qui changeait beaucoup la donne. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que même dans secteur monopolistique, il y avait quand même des leaders qui aimantaient la majorité du marché. À l'époque, c'était des maisons comme Adertagen, Piazza, maisons françaises, qui avaient un caractère d'office ministériel, mais qui, de par leur surface commerciale, avaient une suprématie sur le marché. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'une maison comme Ader, dans les années 60, faisait à elle seule 60% du chiffre d'affaires national. On a du mal aujourd'hui à se rendre compte, puisque le marché est devenu international, mais c'était un indice d'une très très grande puissance sur le marché. Mais nous avions quand même un monopole. En revanche, dès 2002, nous passons dans une phase commerciale pure, avec des concurrents aux moyens médiatiques très en avance sur l'époque, considérable, à l'anglo-saxonne, et les commissaires priseurs français se retrouvent un petit peu, même si cette réforme avait été programmée 2 ans à l'avance, c'est un peu comme les étudiants, vous savez, on sait qu'on a jusqu'au mois de mai pour rendre son devoir, mais on s'y prend à la dernière minute. Les commissaires présents ont fait la même chose et on s'est trouvé assez dépourvu. Ce qui a fait que, de par un certain snobisme de la clientèle, Christie's et Sotheby's ont immédiatement absorbé une très grande partie du marché. Et donc j'ai débuté ma carrière à ce moment-là. J'ai racheté à l'époque une étude de commissaire-priseur qui était la propriété de maître Paul Renault, qui aujourd'hui malheureusement est décédé, mais qui avait été nommé en 1955. Donc il avait connu encore une autre époque, c'est-à-dire une époque vraiment très différente. Il expliquait en effet qu'à l'hôtel de Rouault en 1955, il y avait encore des ventes d'animaux sous sol, des saisies d'animaux en pied, comme on fait dans les ventes judiciaires. Et j'ai racheté cette étude, et en 2009, après quelques années très, très sympathiques au sein de cette étude qui s'appelait Renault et Gikilo, enfin qui s'appelait exactement Renault, Gikilo et Associés, il n'y avait pas d'associés en l'occurrence, j'ai été rappelé par mon ancien maître de stage qui était Jean-Claude Binoche, et qui souhaitait lever le pied, et donc nous avons fusionné nos deux études, donc l'étude Renault Gikilo et Associés et l'étude Binoche, qui est devenue donc l'étude Binoche et Gikilo jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Jean-Claude Binoche a pris sa retraite depuis un petit moment, mais le nom m'appartenant, je l'ai gardé puisqu'il avait une grande notoriété dans la profession, et voilà, nous en sommes ici.
Un beau parcours. Maître Alexandre Gigalo, vous êtes un homme de la culture, un homme de culture. Quelle est pour vous votre propre définition de la culture? Qu'est-ce que la culture?
La culture, c'est le propre de l'humaniste. C'est une notion qui se perd aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes dans une société qui fonctionne en très grande partie par l'argent et non plus par la qualité humaniste, intellectuelle. Il y a très longtemps, cette notion d'humanisme qui est au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, c'est la République des lettres, c'est-à-dire ce sont des intellectuels qui vont, grâce à leurs connaissances limitées à un très petit nombre de personnes, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est très important. Aujourd'hui, avec Internet, la connaissance est universelle, beaucoup plus, elle est universellement accessible. Elle n'est pas universelle. À l'époque, elle n'était pas accessible à qui ne savait pas lire le grec, le latin, etc. Et cette République des lettres, que j'apprécie beaucoup, avait donc le monopole de cette culture. Ce qui en soi était une chose formidable, puisque c'est le début de l'ouverture sur le monde pour l'homme, on sort de la nuit du Moyen-Âge, mais qui en soi n'est pas satisfaisante puisqu'elle est réservée à, c'est une espèce d'oligarchie de la culture. Aujourd'hui, elle est accessible à tous, mais tous n'y ont pas accès de par leur simple volonté. C'est un paradoxe assez intéressant et je le vois à travers mes différents clients, les plus importants, qui sont souvent financièrement extrêmement puissants, mais qui n'ont pas pour autant une très grande culture. Je le dis un peu de façon très, avec toutes les nuances qui s'imposent, parce que je ne voudrais pas paraître pour rentrer dans un jugement prétentieux, etc. Mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par un système éducatif qui est quand même, il faut le reconnaître, extraordinairement ouvert, si on veut et si on se donne les moyens de faire l'ENA, Sciences Po, Polytechnique ou je ne sais quoi, on peut. La République le permet. En revanche, ce n'est pas forcément en phase avec la notion de réussite contemporaine qui est très centrée sur la réussite financière, l'argent. Oui. Pour simplifier énormément, c'est une notion contemporaine, c'est-à-dire qu'après-guerre, il fallait être architecte, parce que la France est à reconstruire. Dans les années 70, il fallait être chirurgien esthétique. Et aujourd'hui, il faut être trader, pour simplifier énormément.
Ouais, c'est ça.
Mais aujourd'hui, je le constate, c'est un fait, nos clients les plus puissants sont souvent des clients appartenant au monde de la finance. Cela évolue un tout petit peu. Aujourd'hui, les nouvelles technologies prennent également le pas. Mais tous mes clients et amis, qui sont des personnes ayant fait des fortunes colossales dans la nouvelle technologie, sont tous des matheux.
D'accord.
Ce sont des scientifiques. Et ce sont des personnes qui n'ont qu'une appréhension relative de tout ce qui est de caractère humaniste, c'est-à-dire l'histoire, la littérature, la philosophie, etc.
Mais je vais reparler de la valeur de l'art tout à l'heure. Jean d'Ormesson a cette belle définition de la culture. La culture, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Cette définition n'est-elle pas finalement la définition d'un hôtel de vente aux enchères? Enfin, l'espace et le temps, finalement, ouais. L'art est à l'intérieur de cet espace-là.
Oui, alors ce qu'il faut préciser, que j'ai oublié évidemment, c'est qu'au-delà de ma maison de vente, j'ai été nommé à la tête du groupe de Rouen.
Voilà, c'est pour ça que je...
Vous êtes plus révélateur.
Vous êtes le grand patron du groupe.
Voilà, c'est-à-dire que à la fin 2017, j'ai été nommé par mes pairs, enfin j'ai été élu par mes pairs, puisque c'est un système... Le groupe Drouot est une holding avec des actionnaires, dont tous les actionnaires sont des commissaires-priseurs en activité, pour la plupart. Et donc, au sein de l'Assemblée générale, j'ai été élu à la tête du groupe Drouot. Le groupe Drouot, c'est l'hôtel des ventes comme cœur de métier, mais également un groupe de presse, avec comme locomotive la Gazette Drouot, qui est le plus grand journal d'annonces de vente publique au monde. Et également le moniteur des ventes, mais ça c'est pour les caractères plus judiciaires, donc c'est quelque chose un peu plus modeste. Et aujourd'hui également une filiale qui s'appelle Drouot Digital, qui est donc la filiale digitale de notre groupe, comme son nom l'indique, et qui est la plus grande plateforme européenne de vente en ligne, de vente online et en live. On en parlera peut-être un peu plus tard. Oui. C'est-à-dire que c'est un groupe qui aujourd'hui a une histoire très riche, puisqu'il a été fondé techniquement en 1851, mais pratiquement depuis Henri II. Et très riche d'histoire, très riche par ses actifs immobiliers, puisque nous avons un hôtel des ventes à la rue de Rouault que tout le monde connaît et qui est quand même un des fleurons de la... C'est le plus grand hôtel des ventes au monde, on l'oublie un peu facilement. Les Français ont cette faculté de voir toujours mieux ailleurs. Et on oublie que l'hôtel de Rouault est le plus bel et le plus grand hôtel des ventes au monde. Au monde, ni en Chine, ni à New York, chez nos plus grands concurrents qui ont une surface financière peut-être 2, 3 fois, 10 fois plus supérieure à la nôtre. Ils ne possèdent pas un hôtel aussi important, puisqu'ils s'y traitent 500 000 objets par an et environ 1 millier de ventes par an. Donc c'est considérable et c'est un outil extraordinaire. Et donc effectivement, depuis 2017, j'ai la chance de m'occuper de cette très belle maison. Et donc j'ai totalement oublié votre question d'origine.
Non, l'espace et le temps.
Ah, l'espace et le temps.
Est-ce qu'une salle de vente, un hôtel de vente, finalement, n'aurait-elle pas cette définition que dans les sondes?
Oui, tout à fait. Alors, je suis plus sensible à la notion d'espace qu'à la notion de temps.
Oui.
Enfin, de temps plutôt, à la notion d'espace. Puisque, effectivement, la notion d'histoire est très, 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 très forte dans notre métier. Mais là où je suis très sensible à cette citation, c'est la notion de cœur, évidemment. Puisque les objets d'art ont cette faculté qui, là, pour le fait, est totalement universelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait sortir d'un isolement total depuis des années pourrait néanmoins être sensible à un objet d'art. De par simplement sa sensibilité, donc son cœur. Et ça, c'est une notion qui est très, très, très importante, effectivement. Maintenant, au-delà de l'aspect esthétique, il y a la notion très importante de la maîtrise d'un certain nombre de notions. C'est-à-dire que, je prends n'importe quoi, un exemple Picasso, un exemple très simple. Il y a le Picasso de 1973, il y a le Picasso de 1910. C'est pas le même.
Oui.
Ou 1907, d'ailleurs, pour prendre un exemple plus pertinent. Aujourd'hui, je pense que il y a des clés de lecture qui sont indispensables et qui ne sont accessibles que par une certaine éducation. C'est ce qui rend difficile notre métier, puisque nous avons vocation à nous adresser à un public le plus large possible, mais le fait est que dans les différents thèmes de collection que nous pouvons aborder, les livres, le précolombien, l'Afrique, je ne sais quoi. On peut avoir un intérêt esthétique spontané en disant tiens, j'aime bien cette pièce. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi je l'aime bien, mais je l'aime bien. Et puis après, vous allez comprendre que cette pièce est intéressante parce que vous pouvez comprendre ici le maître de temps qui a influencé cette pièce et on sait que après. À l'époque, les strates d'influence réciproques, la rareté, pourquoi, la provenance, la fabrication, l'époque, etc. sont des notions que vous devez avoir assimilées.
Il faut donc être éduqué pour être sensible à l'art.
Oui. En partie.
En partie.
Vous pouvez être spontanément sensible. C'est ce qui fait le grand succès de l'art contemporain, même s'il y aurait beaucoup à dire sur l'art contemporain, puisque vous avez art contemporain et art contemporain. Oui. Vous avez l'art contemporain. Et je crois que ce qui se perd énormément aujourd'hui, de façon simpliste, encore une fois, je m'en excuse à l'avance, mais enfin, je vous demande de bien. Il y a deux dimensions dans l'art contemporain. Il y a une dimension esthétique et une dimension financière.
Oui. Propre à l'art contemporain.
Propre à l'art contemporain,
oui, c'est ça.
Malheureusement, si je puis dire. La dimension esthétique, effectivement, tout le monde peut l'apercevoir. J'aurais tendance à considérer qu'elle se perd. C'est-à-dire que la notion de marché l'emporte, et on va admirer tel ou tel artiste puisqu'il vaut très cher, et non pas puisqu'il réveille en vous un instinct particulier où il fait appel à votre cœur, justement, comme le disait Dormesson. Donc, c'est un milieu très, 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 très particulier. Et malheureusement, ce que je regrette énormément, je suis mal placé pour en parler, puisque, comme vous le savez, l'art contemporain est un secteur qui est totalement trusté par les grandes maisons anglo-saxonnes à New York et à Londres, et pas vraiment à Paris, pour des raisons purement financières. Puisque c'est un art qui est financé. Financé par des galeries, financé par les maisons de vente, qui elles-mêmes financent les achats, financent les avances, financent les garanties, etc. C'est très compliqué. Dans des sphères de prix qui nous dépassent totalement, nous, commissaires-priseurs français. Sachant que, pour mettre une nuance subtile, ces deux maisons appartiennent à des Français aujourd'hui. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais on perd aujourd'hui énormément. La notion qui pour moi est importante, d'esthétisme. C'est-à-dire qu'on va apprécier, je ne vais pas citer d'exemple parce que je ne vais pas me fâcher avec qui que ce soit, mais on va apprécier tel ou tel artiste puisqu'il a une cote très importante. Regardez ce film très amusant qui s'appelait Intouchable, où le protagoniste va vendre à son cousin l'œuvre de son chauffeur, oui, de son assistant, de son chauffeur, là, en lui expliquant qu'il a déjà été vendu, je ne sais pas quoi. Enfin bon, tu comprends, à Londres, ça fait déjà 100 000 $. Ah bon, alors je vais l'acheter. Non, il faut l'acheter parce que c'est beau.
Oui.
Il ne faut pas l'acheter parce que ça vaut 100 000 $ ou 1 000 000 $ ou 100 000 000 $.
En parlant de... Vous venez de citer un mot sur lequel je voulais vous interroger, sur le beau. Emmanuel Kant fait la distinction entre le beau, l'agréable et le sublime. Pour vous, dans l'art, comment pourriez-vous définir le beau, l'agréable et le sublime ? Une œuvre vous transcende-t-elle ou la trouvez belle ou pas ou...
Alors, non, vous avez des questions vraiment bien senties. Le beau est relatif. Chacun a un mauvais goût. Moi, je vais aimer telle chose, vous allez aimer autre chose, vous allez trouver ça beau, et moi, je vais trouver ça moins beau, voire moche. Après, c'est une question vraiment de goût. Pourquoi je n'aime pas tel ou tel artiste au profit d'un autre ? Bon, après, c'est une question qui est très profonde, qui fait appel à votre éducation, à votre passé sensoriel, votre cerveau reptilien, que vous ne maîtrisez absolument pas, c'est-à-dire que bon, vous allez être placé dans un environnement familial qui va faire que. Ça, c'est pour le beau. Le sublime, c'est autre chose. Le sublime fait appel, là, vraiment à la connaissance. C'est-à-dire que le sublime, selon moi, est une notion qui peut être universelle quand vous avez les clés de lecture. Moi, j'ai toujours été très étonné de discussions que j'ai pu avoir avec des experts qui m'expliquaient que deux œuvres qui me paraissaient très proches, principalement en art africain, par exemple, ou océanien, l'expert me disait, mais tu comprends, regarde, ça, chef-d'œuvre, ça, immonde. Et moi, je ne voyais pas la différence,
oui,
honnêtement, au départ surtout. Et je me disais, pourquoi il me dit ça, chef-d'œuvre ? Je lui demandais, pourquoi ça c'est un chef-d'œuvre et ça c'est sans intérêt ? Ça c'est un chef-d'œuvre parce que... Et là, il faisait appel à une très grande connaissance, très, très scientifique, très, très subtile. C'est-à-dire que, selon moi, le sublime ne s'impose pas en lui-même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver quelque chose quand on n'a aucune notion de rien, ce qui peut arriver, et ce qui est tout à fait respectable. On va trouver quelque chose de très très beau. Mais pour arriver au niveau de sublime... C'est-à-dire qu'il dépasse, qui dépasse tout, je crois qu'il faut là avoir des clés de lecture. Et donc, qui, de par leur nature, relimite le nombre de personnes qui vont pouvoir se prononcer sur le côté sublime au nom d'une pièce.
C'est ça. Vous ne seriez pas, si je puis me permettre, un ami d'Emmanuel Kant. Parce que pour lui, Kant, le sublime, c'est vraiment ce bouleversement émotionnel inexplicable. Devant une telle œuvre, on est, c'est une transcendance, une certaine transcendance.
Non. Là, de par mon expérience, je comprends évidemment ce qu'il veut dire. Il y a un côté très mystique.
Oui.
C'est-à-dire que c'est sans l'expliquer, on est saisi devant une œuvre. Mais donnez-moi des exemples.
Ça vous est déjà arrivé, vous, d'être complètement... Vraiment.
Oui, mais moi je suis un mauvais exemple parce que moi j'ai un bagage.
Oui. Mais dans votre jeunesse, avant que vous ne commenciez les études de commissaire-priseur, est-ce que vous avez toujours été attiré par
l'art ? Alors là encore, c'est intéressant. Là encore, c'est lié quand même à son histoire. C'est-à-dire que je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est assez marquante. Enfin, je sais pas comment la qualifier. Quand j'ai eu 4 ans et demi, très précisément, c'était assez petit quand même, j'ai eu un problème d'otite, vraiment un truc idiot, assez grave mais idiot. Et dans le cabinet de l'ORL spécialisé qui allait m'opérer, il y avait une reproduction derrière son bureau de Bruegel. Et à 4 ans et demi, au moment où lui parlait de choses très sérieuses avec ma mère qui était présente, c'est elle qui m'a raconté, moi je ne m'en souviens pas du tout. Hein. Moi je n'écoutais pas évidemment parce que j'étais un enfant pas du tout sensible à ce genre de choses. Et j'ai coupé la conversation pour dire ça c'est un Bruegel.
Alors, évidemment, à 4 ans.
À 4 ans et demi. Alors évidemment le médecin était sidéré, ma mère aussi, etc. Et pourquoi ? Parce que mon père, qui était architecte, donc il avait quand même une sensibilité artistique très importante, avait en permanence, comme aujourd'hui, des livres d'art posés sur sa table basse, et il y avait un livre sur Bruegel que j'ai feuilleté quand j'avais 3 ans, 4 ans, 4 ans et demi. J'ai été animalement sensible à cette esthétique, et là je ne l'explique pas pourquoi.
C'est ça, voilà.
Parce qu'il y avait un côté pittoresque, il y avait un côté... j'imagine, c'est une peinture très figurative, avec des scènes de vie qui ne sont pas les nôtres, puisqu'on se replace à la fin du 15e, 16e, enfin, etc. Et j'ai été attiré visiblement par cet ouvrage au point de déchiffrer le nom.
C'est
bon,
ça,
voilà.
Oui, c'est ça.
Et là, je dis, c'est Bruegel. Ou demander à mes parents, c'est quoi ça ? Ils m'ont dit, bah, c'est Bruegel. Et voilà. Alors, je ne faisais pas la différence entre Bruegel l'ancien et Bruegel le jeune. J'ai mis des années à faire la différence, d'ailleurs, entre les deux. Mais voilà un exemple, je trouve, assez typique. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans et demi n'a pas de... mais il a des... Je ne dirais pas que j'ai des prédispositions, mais il a, en revanche, un environnement. C'est-à-dire que... pour reprendre l'exemple des matheux, quoique, je ne sais pas, je pourrais pas comprendre, ou alors d'une cabane de bûcherons au Canada, ou je ne sais pas quoi, il n'y a peut-être pas forcément de livre de Bruegel l'ancien sur la table basse, et donc l'enfant va peut-être être sensible à autre chose. Il va peut-être plus être sensible à une nature morte de... flamande, ou je ne sais quoi, enfin une chose qui est plus facile d'accès. C'est ce qui fait une partie du succès de l'art contemporain, parfois. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont faciles à comprendre.
Faciles à comprendre et cependant pas toujours. Enfin, je rebondis sur vos mots pour poursuivre l'interview parce que je vois que l'heure malheureusement passe vite. Mais dans l'art contemporain, je vais schématiser, n'est-ce pas un peu. Moins ça a de sens immédiat, plus la valeur de cette reproduction, de cet art est immense. Comment expliquez-vous finalement, je schématise, mais comment expliquez-vous cela ?
C'est une erreur. C'est-à-dire que je crois que pour comprendre l'art contemporain, il faut déjà comprendre le surréalisme.
Oui.
Il faut déjà comprendre Duchamp. Le vrai créateur de l'art contemporain, c'est Duchamp. Avec c'est-à-dire que le concept de l'urinoir, par exemple,
oui.
C'est-à-dire que c'est un objet qui devient... Ah, mais il y a un concept derrière. Il y a un concept très puissant. Et je crois qu'il faut... Enfin, ça, c'est un terrain sur lequel moi, je suis un peu en désaccord. C'est-à-dire qu'on abandonne l'esthétisme au profit du concept.
Oui.
Je crois que c'est une erreur.
Oui, mais c'est...
Si c'est moche et que le concept est génial, bon, je mets des réserves.
Alors, en parlant de Marcel Duchamp, je trouvais une citation...
Le ready-made, c'est le ready-made.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on prend un téléphone portable, on le met là et on dit voilà. C'est beau parce que c'est un concept.
Oui.
Alors, l'urinoir, on comprend, parce que c'est 1919, ou je ne sais plus quoi, c'est très tôt. Hein.
Oui.
Il y a d'autres aujourd'hui, il y a des œuvres d'art contemporain que moi je trouve laides et je ne sais pas de comprendre le concept.
Ça ne vous attire pas de le comprendre ?
Non.
D'accord. Mais alors, pour reprendre Marcel Duchamp, je pense que vous l'avez vous-même dit à l'instant, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec lui, mais je voudrais poursuivre sur la...
J'en ai d'accord avec tout le monde, avec Kant, avec Duchamp.
Mais vous êtes vous-même, c'est merveilleux. Mais Marcel Duchamp, je voudrais revenir sur la valeur de l'art. Et voilà ce que dit Duchamp. C'est complètement ridicule d'attacher une étiquette à l'art. C'est antinomique en soi. L'œuvre d'art n'a pas de valeur, aucun d'ordre numérique ou d'ordre moral. C'est une chose qui s'impose par sa présence uniquement. Cette présence est celle qui se passe de siècle en siècle et qui est conservée comme une chose unique et donc qui n'a pas de prix.
Ah, mais là, je suis d'accord pour une fois, voyez.
Mais alors, comment concevez-vous? Et là, c'est ma question à laquelle je voulais arriver. Vous avez des... Je voyais à l'hôtel de Vendreau, vous avez eu, il me semble que c'est en 2018, une extraordinaire, énorme vente d'une production chinoise, d'un peintre chinois. Comment expliquez-vous, finalement, Duchamp qui dit que l'art n'a pas de prix, et ces reproductions qui sont vendues à des sommes inexplicables? Est-ce qu'on peut expliquer la valeur de l'art?
Non, mais je pense que Duchamp n'aurait pas aimé le spectacle contemporain. Il dit que, si je reprends votre citation, ça, c'est une œuvre qui s'impose d'elle-même.
Oui, par sa présence.
Par sa présence. Je pense qu'il entend, connaissant un peu son œuvre, une présence très intellectuelle. Ce que je veux bien croire. Mais attention, pour atteindre un tel degré de perfection intellectuelle, ça fait appel à un niveau un peu plus élevé que tout ce que je peux voir, moi, à la FIAC et compagnie. Mm-hmm. Donc, si elle s'impose, je rebondis sur cette notion de s'imposer, si elle s'impose autrement que par sa dimension très intellectuelle, donc réservée à un encore plus petit nombre d'amateurs, ça veut dire que c'est une dimension qui est universelle. Et pour moi, la dimension universelle qui s'impose à tous, c'est l'esthétisme quand même. Ça doit être beau. Moi, je suis heureux d'avoir une œuvre d'art contemporain parce que je trouve ça beau et que tous les jours, je vais la voir. Vous savez, il y a une épreuve ultime dans notre métier qui est de vivre avec les objets.
Là, vous êtes entouré de...
Moi, j'ai cette chance, mais non, je vais prendre un exemple personnel, c'est-à-dire chez soi. Quand, au bout de quelques temps, 1 an, 10 ans, tout est relatif, vous ne voyez plus l'objet, il faut le vendre.
C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne vous sensibilise
plus. Tous les jours,
plus.
Vous me disiez, cet objet, qu'est-ce qu'il est beau, je l'adore.
Ah oui.
Et de le revoir tous les jours, au bout d'un an, 10 ans, 20 ans, en disant, je ne me lasse pas de voir cet objet.
Une simple question avant de poursuivre. À travers cet objet, par exemple, tous les jours, quand vous dites, je l'adore, il est beau, il vous ramène à vous-même. Autrement dit, est-ce que l'art est un miroir pour vous? Est-ce que tous les jours, vous apprenez à vous connaître à travers cette œuvre, par exemple, ou à travers n'importe quelle œuvre? Est-ce que l'art est anthropologique?
Alors, me connaître, je ne pense pas. En revanche, connaître ses limites, oui. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, pourquoi je ne connais pas ce type d'objet? C'est une des notions de notre métier. C'est-à-dire
oui,
que
oui.
On a une vocation généraliste. Je prends l'exemple des successions. Le commissaire-priseur est souvent appelé en matière successorale pour régler les actifs mobiliers des défunts. Et là, vous arrivez dans un appartement que vous ne connaissez pas et vous devez immédiatement, comme un médecin généraliste, tout savoir un peu. Et si un jour j'arrive devant un objet que je ne connais absolument pas, là je me dis, restons modestes, parce que je me rends compte que moi j'ai 50 ans et que je ne connais toujours pas, et je connaîtrai tout. Enfin, moi, j'ai connu des commissaires-priseurs qui avaient presque 90 ans et qui me disaient,
qui connaissaient pas encore.
Restez modestes parce qu'on ne connaît rien.
Oui.
Parce que c'est tellement vaste. Donc à ce niveau-là, on connaît ses limites. En revanche, mieux se connaître, certainement, mais là ça me dépasse un petit peu.
Au niveau du cœur, au niveau de la sensibilité, hein, comme dit d'Ormesson, une œuvre qui nous touche, c'est quand même une œuvre qui à la fois qui permet de connaître mes limites, mais aussi...
Alors je vais dire un truc horrible, mais on est là pour tout se dire.
Voilà.
Il y a des commissaires-priseurs qui n'aiment pas les objets.
C'est le grand paradoxe.
Et qui font ce métier par opportunité.
Opportunité
C'est un hasard de la vie,
d'accord.
Voilà, ça s'est fait comme ci, ça s'est fait comme ça. Bon, à l'époque, c'était différent, puisque il fallait acheter une charge de commissaire-priseur qui coûtait très cher, donc c'est souvent vos parents qui payaient la charge. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et puis, par le hasard des rencontres, etc. Mais moi, j'ai connu des commissaires-priseurs qui n'aimaient pas les objets.
Ah oui.
Qui avaient un rapport très froid avec les objets, qui étaient uniquement des sources de revenus.
Oui, assez matérialiste, quoi.
Complètement matérialiste.
Oui, c'est ça.
Détaché de la notion de cœur dont parle Dormesson.
Dormesson, oui. Alors je voudrais poursuivre et terminer.
C'est pas mon cas. J'espère.
Mais ça se voit sur vous, vous êtes passionné par, et vous êtes une réflexion profonde sur l'art. Je voudrais quand même terminer deux, trois questions, mais sur la valeur de l'art.
Ouais.
On a cette notion de la valeur de l'art, plus l'art a un prix inexplicable, plus il a de la valeur. Qui fixe la valeur d'une œuvre d'art ?
Alors là encore, je ferai une grande différence entre ce qu'on appelle le... Moi, j'aime pas trop employer des mots anglais, mais ça s'impose le fine art, c'est-à-dire les objets d'art classiques avec l'art contemporain. L'art contemporain, ce qui fixe la valeur, c'est un marché qui peut être totalement, non seulement arbitraire, mais artificiel. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce domaine parce que je ne le maîtrise pas. Mais je suis un observateur professionnel et je sais qu'un certain nombre d'objets d'art contemporains ne sont pas forcément au départ vendus mais sont financés. C'est-à-dire qu'on passe en vente, ça fait un certain prix,
oui.
Ce prix est payé, mais parfois par le même vendeur, le marchand, etc., pour fixer une cote. Donc je mettrai à part ce secteur. Qui est un secteur que je ne maîtrise pas, qui est un secteur très particulier, très financiarisé. Ça, faut le savoir, c'est connu. Attachons-nous plutôt aux objets d'art.
Tout à fait, oui.
Il y a quelques années, c'est vendu à Londres, je crois, une petite statuette assyrienne, enfin, de orientale, d'une lionne. En pierre noire, qui est estimé 500 000 et qui a fait 35 millions d'euros. Parce qu'à ce moment-là, vous aviez deux amateurs très importants, très érudits, très fortunés, qui la voulaient à tout prix. Ce type d'amateur possède un peu tout et ils veulent le Graal.
Mmh.
Et les deux se sont retrouvés, pour des raisons qui serait intéressant d'analyser, sur cette œuvre, qui est très belle, assez petite, hein, grande comme ça, petite lionne, en basalte noir, vous la trouvez facilement. Euh, 35 millions, c'est beaucoup d'argent quand même.
Oui, mais comment expliquez-vous ?
Eh bien là, c'est le prix du désir.
C'est ça.
C'est-à-dire que je pense que les enchères ont dû s'arrêter en dessous, c'est-à-dire... Le marché a dû s'arrêter à 1 million ou 2 millions. Mmh. Et après, eux deux sont montés. C'est la vente aux enchères publiques. C'est la magie des enchères.
Oui.
Notre métier est de rendre les acheteurs fous.
Ça marche. Hein,
et de payer, de faire payer un prix qui ne correspond pas forcément au marché. Mais c'est tout de suite, maintenant, là.
Oui.
Et vous avez quelques secondes pour vous décider. Et là, l'ego joue un rôle très important puisque... Ça fait appel à des notions un peu très humaines de montrer qu'on est le plus fort.
Voilà, c'est le potlatch, hein, le potlatch avec Lévi-Strauss, hein, qui dit finalement celui qui va donner le plus, qui va enchérir.
Regardez cette œuvre numérique qui a fait 60 millions d'euros là.
Oui. Non mais ça c'est hallucinant. Enfin, moi ma question c'est quand même étonnant parce que alors finalement avec tout cela, avec les exemples que vous donnez,
oui. Le Bitcoin, c'est quoi, le Bitcoin? C'est très intellectuel comme notion.
Tout à fait.
Mais l'œuvre numérique c'est encore plus intellectuel. 60 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent.
C'est énorme. Mais
aujourd'hui
alors...
un Rubens, un Rembrandt, ce que vous voulez, 60 millions d'euros, c'est
Ah mais c'est inimaginable, enfin on n'arrive même pas à l'imaginer. Mais alors, peut-on dire, avec les exemples que vous avez donnés, alors que ce soit la petite statuette syrienne, est-ce qu'on peut dire finalement que l'art n'est pas accessible à tout le monde ? L'art est assez... sont pour des privilégiés, pour une certaine élite ?
Non, il suffit d'aller au Louvre. Le Louvre, le billet du Louvre coûte pas 8 euros, je ne sais pas combien.
Mais la vente aux enchères.
C'est accessible à tout le monde, c'est la possession des objets d'art.
Oui, mais alors c'est réservé quand même pour une...
Ah oui, toujours, mais ça a toujours été le cas.
Ça a toujours été le cas.
Ça a toujours été le cas. Les Romains faisaient des faux statues grecques qui vendaient très très cher à des amateurs. Vous prenez les fouilles archéologiques du néolithique, dans les cavernes, tout ce que vous voulez, le 35 000 ans avant Jésus-Christ, et dans les tombes, vous retrouvez des petits objets, vous retrouvez des perles asiatiques dans les tombes néolithiques.
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, on collectionnait, on conservait, on se faisait enterrer avec son petit trésor, qui était un petit coquillage, alors qu'on était en plein centre continental, ou une perle qui venait d'Orient ou je ne sais où. Donc, la possession a toujours été le propre de l'homme. Je crois que ça a été analysé, hein, ça a été analysé. C'est très masculin. C'est lié aux phases de la petite enfance. On veut tout retenir en soi, vous voyez.
C'est très masculin, pourquoi
oui.
C'est très...
Ah, oui. Ça a été étudié, hein, vous trouverez facilement des études sur la collectionnite.
D'accord.
La collectionnite, c'est très masculin et c'est totalement lié à la petite enfance et à cette phase où on veut tout garder, on veut rien jeter, vous voyez, les enfants qui gardent tous les cailloux, les pierres dans leur poche, vous voyez, etc.
Une certaine possession peut-être de manquer, peut-être. Enfin, un psychanalyste
pourrait... Ah bah ça, c'est à vous de travailler. C'est pas à moi.
On se reverra pour en parler.
Ouais, ouais.
Mais je voudrais terminer cette interview. Comment rendre pour vous l'art accessible à la jeunesse? Parce que vous avez...
Par l'éducation. La question est... Alors là...
Oui, mais faut-il encore
l'histoire
avoir
de l'art à l'école.
Mais oui, mais faut-il encore avoir...
Pourquoi en Italie, on étudie l'histoire de l'art au collège et pas en France?
Mais oui.
Voilà. C'est très simple. Moi, je fais un appel aujourd'hui officiel au ministère d'Éducation. Il faut réintroduire l'histoire de l'art. L'histoire, c'est formidable. L'histoire de l'art, c'est fondamental. Et effectivement, j'ai l'occasion d'avoir des contacts avec des nouveaux acheteurs que je peux principalement rencontrer dans des disciplines un peu marginales. Je prends comme exemple la paléontologie.
Oui.
Qui est une de mes spécialités, je vends des fossiles de dinosaures. Et là, je vois arriver des jeunes gens, pour faire une caricature comme ça, des jeunes gens très, très fortunés dans les nouvelles technologies et qui veulent acheter un tyrannosaure. Bah, un T-Rex, il n'y en a pas, mais un fossile, un grand fossile de dinosaure. Ils ne connaissent rien, ils ne s'intéressent à... Ils s'intéressent à plein de choses, mais pas forcément à l'histoire de l'art. Et là, ils sont prêts à mettre 1, 2, 3, 4, 5, 30 millions, puisque le dernier tyrannosaure qui passait en vente a fait 31 millions quand même, sur un fossile de dinosaure. Pourquoi ? Parce que là, c'est le cerveau reptilien.
D'accord, oui.
Le grand carnassier du Jurassique ou de je ne sais pas quoi, tout le monde comprend. Parce qu'on se met face à une bête qui fait 11 mètres de long, ou 10 mètres, ou 15 mètres, et on se dit, oui, 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 j'ai peur. Alors qu'il n'y a aucune chance que vous puissiez être dans le même monde. Mais votre instinct, les gens aiment se faire peur. Pourquoi les gens regardent des films d'horreur, vous voyez ? Donc on est face à une pièce qui s'impose à tout le monde. Mais est-ce que c'est un objet d'art ? Non, ce n'est pas un objet, puisque ça n'a pas été fait par la main de l'homme.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est un trésor de la nature. C'est un objet fascinant, mais ce n'est pas un objet d'art. Il n'y a aucune manufacture. Donc c'est passionnant. Et là, vous avez des gens qui ne connaissent rien à l'essor de l'art, beaucoup de choses sur plein de domaines, hein, la technologie, etc., mais qui ne connaissent rien à l'essor de l'art, mais qui vont spontanément mettre beaucoup d'argent pour acheter un fossile de dinosaure. Ça, c'est passionnant. Parce que là, on se dit, tiens, voilà une œuvre qui s'impose d'elle-même.
Je vais quand même vous poser cette question, parce que vous venez d'un peu l'introduire, mais à quel moment pouvons-nous dire que c'est de l'art ? Vous parlez d'objets d'art, donc voilà, avec la patte humaine, mais de l'art. À quel moment peut-on dire que c'est de l'art ?
La définition des arts, les arts appliqués, les arts industriels, c'est le beau dans l'utile.
Voilà. Oui.
C'est une lampe, elle m'éclaire. Est-ce qu'elle est belle ? Est-ce qu'elle est moche ? Voilà,
le beau dans l'utile.
Le beau dans l'utile. Oui. Vous avez tout. Le beau, est-ce que c'est beau ? La notion de beau, après, c'est relatif. Moi, j'ai trouvé que votre cravate est horrible, et vous allez dire, mais la vôtre est immonde.
Ah, c'est une question de goût. Elle est belle.
Non, mais c'est une question de goût. Vous voyez, après, je pourrais mettre une cravate rose,
oui.
Et si ça me plaît, bon, ben voilà. Le beau dans l'utile. Après, le beau,
c'est une belle définition.
C'est relatif.
Le beau dans l'utile. C'est ça. Je me permettrai de la donner à mes étudiants. C'est une belle définition.
N'hésitez pas.
Le beau dans l'utile. Et je vous citerai.
C'est là.
Ouais, non, alors, à tous ma dernière question est la suivante. Maître Alexandre Gicquello, à tous les étudiants, tous les jeunes qui en ce moment vivent des moments très difficiles, quel est le message d'espérance que vous pouvez leur donner, leur offrir aujourd'hui?
Le message, aujourd'hui, la situation effectivement est catastrophique. Mais imaginez la même situation à l'époque où il n'y avait pas Internet.
Oui. On n'arrive même pas à imaginer.
Bon, déjà, à l'époque, je pense qu'on serait tous en très mauvaise santé parce qu'il n'y aurait pas eu cette prévention, etc. etc.
Oui.
Mais surtout, Internet aujourd'hui est quand même une fenêtre sur le monde incroyable. Et n'hésitez pas à aller découvrir tous les musées du monde, toutes les collections, tout ce qui est accessible en ligne. Le musée du Louvre a toutes ses collections en ligne.
Oui.
N'hésitez pas, et le jour où on va réouvrir, allez voir les musées, allez voir ce que l'homme a produit, ce que l'homme a chéri pendant toutes ces années. Pourquoi vous savez, on va venir à des notions d'argent, mais malheureusement elles sont très présentes dans notre milieu.
Oui.
Pourquoi les grands mécènes, depuis toujours, ont financé des objets d'art qu'ils ont gardés précieusement,
oui,
de là à aller se faire enterrer avec, voyez, pour que personne d'autre n'en profite. C'est très égoïste, mais c'est comme ça. Parce que, effectivement, tous les grands foyers de création ont toujours été liés à une activité économique.
Oui.
Pourquoi Venise est le centre du monde de l'édition entre 1450 et 1600? C'est parce qu'il y a beaucoup d'argent et qu'on va payer, on va financer les ateliers de graveurs qui vont graver les lettres, les bois, etc. On va payer tout ça. Il faut financer cette création. Pourquoi tous les peintres sont flamands à une époque? Parce que c'est le duché de Bourgogne et c'est toute la richesse de cette période-là. Pourquoi après ils vont être en Italie, ils vont être en Espagne, ils vont être ceci, ils vont être cela? Parce qu'à chaque fois, des mécènes vont payer très cher pour voir les meilleurs artistes au monde. Et un type qui va naître en Lorraine, qui s'appelle Poussin, il va quitter sa Lorraine natale pour aller en Italie, pour aller à Rome. Parce que c'est là, à Rome, qu'il va trouver des mécènes qui vont payer très cher pour avoir ses peintures. Et le type est français, il est lorrain, et il va se retrouver à Rome à cette époque-là. Vous voyez cet exemple. Et aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis un artiste d'art contemporain. Alors aujourd'hui, moi, si j'étais jeune artiste d'art contemporain, est-ce que je n'irais pas en Chine? C'est là où il y a l'argent.
Le nouveau marché, oui.
Alors bon, le fait est que, d'expérience, je peux vous dire que l'argent, il est encore aux États-Unis.
Hein. D'accord.
Parce qu'ils ont comme en France, nous, on a été très très riches en 1900, jusqu'en 1914. Ça diminue, mais c'est très lent. L'argent entre 1950 et 2000, c'est les États-Unis.
Les États-Unis, d'accord.
Et c'est encore eux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, et c'est eux qui peuvent financer des artistes, etc. etc., etc. La Chine émerge, les pays. Peut-être que dans 50 ans, ce sera l'Inde, ou je ne sais pas quoi, ou les Philippines, ou je dis n'importe quoi, mais pays qui aura trouvé une autre.
Donc à tous les jeunes, vous leur dites, ouvrez-vous à la culture, ouvrez la fenêtre de la culture.
Il faut voir. Pourquoi aujourd'hui, moi je vais vous dire, cet objet, il est faux d'un coup d'œil comme ça? Pas parce que je suis un génie ou je sais pas quoi, enfin, pas du tout. C'est parce que mon cerveau a vu 200, 300, 500, 1000 objets du même type. Et au bout d'un moment, inconsciemment, vous savez que c'est bien ou c'est pas bien. Après, vous faites un pas en arrière et vous pouvez expliquer. Mais spontanément, vous savez, la première impression est souvent la bonne.
Oui, c'est ça.
Talleyrand. Oui. Méfiez-vous de la première impression, c'est souvent la bonne.
Oui.
Moi, j'arrive et je me dis, ce tableau, je le sens pas.
Ah oui, tout de suite.
Quand je le sens pas, il y a un problème.
D'accord.
Alors, je suis pas du tout plus doué qu'un autre, mais c'est que derrière, j'ai vu des choses. Il faut voir. Il faut que votre cerveau s'imprègne. Et comme vous le savez, votre cerveau retient tout. Il ne redonne pas tout, loin de là, mais il retient tout. Donc, quand vous avez vu 1000 tableaux de Picasso, vous connaissez Picasso.
Ouais.
Pas besoin d'avoir fait des études, etc. Enfin bon, pour en avoir vu 1000, il faut déjà s'accrocher. Quoi.
Maître Alexandre Gicquello, merci beaucoup.
Merci
de m'avoir reçu. Merci pour la profondeur de votre réflexion sur l'art. Si, merci beaucoup. Je voudrais terminer par une citation de Descartes. qui souligne, je le cite, « Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, le principal, c'est de l'appliquer bien. » Maître Alexandre Gicquelot, je crois que vous avez les deux. Vous avez l'esprit bon de, par votre humanité et vous l'appliquez bien puisque votre souhait, c'est de continuer à moderniser l'hôtel des ventes. C'est un de vos souhaits, un de vos projets en tout cas.
Du moins d'être en phase avec son temps.
Être en phase avec son temps. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et vraiment, merci de m'avoir reçu. Merci pour votre belle figure d'humanité. Vous êtes un amoureux de l'art. Merci infiniment.
Merci à vous.